Nous abordons le second point. Je vous ai mis un certain nombre de résumés, hein. Vous pouvez vous y retrouver, lire, etc. Le second point, le détachement, aspect négatif, ou la liberté d'esprit, aspect positif. Voilà, vous veillerez à arriver à l'heure. Qu'il s'agisse du début du cours ou qu'il s'agisse de la reprise. Je vous remercie. Pour que je puisse veiller à terminer à l'heure. Car certains étudiants ont un autre cours ensuite. Donc il faut terminer à l'heure. Alors, je vous dis, il y a deux versants quand on aborde ces vertus. Il y a un versant positif, c'est la liberté d'esprit, un versant négatif qui est le détachement. C'est comme ça que dans la pédagogie thérésienne et aussi de Saint Jean de la Croix, il faut prendre les choses sur deux versants. Les versants. Alors, une montagne. Une montagne à deux versants. Ça va? Un versant et un autre versant. Versant. Vous pouvez appeler ça, je ne sais pas, des côtés de la montagne, non? On dit des versants en français. Hein.
Ou des pentes.
Des pentes, oui. Voilà. Les versants de la montagne. Donc, il y a deux versants pour cette même vertu. Un versant positif, et quand vous avez à présenter ça à des jeunes, ou enfin, ou que sais-je, un catéchèse, vous pouvez le présenter surtout pour nos contemporains sous cet angle-là. Donc, au lieu de parler du détachement ou du dépouillement chez Saint Jean de la Croix, vous parlez de la liberté d'esprit. C'est pas une feintise, c'est pas une. Non, mais c'est une réalité, c'est que ces vertus ont deux versants, un versant positif et un versant négatif. Voilà. C'est tout. Un versant lumineux, un versant plus sombre, plus ténébreux, de même qu'il y a la croix et la résurrection, voilà, c'est tout. Il y a le mystère pascal, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Alors, l'enseignement de Sainte Thérèse sur le détachement s'étend longuement, des chapitres 8 à 15. Oui, 8 à 11, pardon. Enfin, 8 à 15, 8 à 11, enfin, bon, c'est un petit peu flou, à vrai dire. On peut dire 8 à 11 réellement et 8 à 15 globalement. D'accord ? Bon. On pourrait croire que le détachement est la disposition la plus importante pour la prière contemplative. Mais elle est constamment décrite en corrélation avec l'humilité. Donc, le détachement a deux aspects pour Thérèse. Je vous ai dit deux versants. Alors j'y reviens, je creuse. Le premier positif, je me détache parce que je m'attache. Je me détache parce que je m'attache. À qui ? Au Créateur seul. D'accord ? Le détachement a ce premier aspect positif, de nous attacher au Créateur seul, de nous donner à lui sans réserve. 8.1, ou page 624. Quand je dis les pages, c'est le seuil, d'accord ? Quand je dis 6.1, c'est les éditions licites. Ça va ? Bon. Le second négatif, le second aspect, de n'avoir plus aucun souci des choses créées. 8.1 encore, même page. Alors, vous voyez que c'est la question du souci. C'est pas la question des choses, c'est pas la question des biens. Les biens sont des biens, les choses sont des choses, sont des créatures, elles ont une consistance, une autonomie. Hein, beauté, etc. Mais la question, c'est le souci de. C'est ça, le problème. Alors, pour Thérèse, il y a un premier détachement, c'est les biens du cœur, les biens familiaux. Elle parle à des religieuses, c'est normal. Hein. C'est un premier pas. Mais, évidemment, le plus difficile, c'est quoi ? C'est de nous détacher de nous-mêmes, car nous nous sommes très unis à nous-mêmes et nous nous aimons beaucoup. Estamos muy juntas y nos amamos mucho. 10.2 ou page 631. 10.2, ça c'est bien vu, page 631. Nous nous sommes très unis à nous-mêmes et nous nous aimons beaucoup. Et Sainte-Thérèse ajoute, paragraphe 3, 10.3, page 631. On peut introduire ici la véritable humilité parce que cette vertu et l'autre me semblent toujours marcher ensemble. Ce sont deux sœurs qu'il ne faut pas séparer. Humilité et détachement. Aux vertus souveraines, maîtresse de tout le créé, impératrice du monde, libératrice de tous les pièges et ruses du démon, et tellement aimée de notre maître le Christ que pas un instant on ne l'a vue sans elle. Quiconque les possède peut avancer et lutter avec tout l'enfer et contre le monde entier ses tentations. Il n'a à redouter personne car le royaume des cieux est à lui. Liberté souveraine. Ça va ? Seigneurie. Impératrice du monde. Ça va ? Alors, à propos du détachement, évidemment, il faut faire un petit flashback sur le chapitre 2 du chemin de la perfection, qui est consacré à la pauvreté, au grand bien de la pauvreté. C'est pas une petite affaire pour Thérèse. Elle était entrée au monastère de l'Incarnation avec une dot. Son père l'avait dotée, avait donné de l'argent pour qu'elle soit bien installée, confortablement installée. Et comme vous avez pu le voir hier, elle avait un petit appartement, un petit T2, on dit en France. T2, oui, T2. Bon. Elle avait un petit oratoire, il y avait des instruments de musique, elle invitait ses amis, on papotait. Voilà, une cuisine, tout ça. Elle était bien parce qu'elle avait, elle avait été dotée par son père. Il y avait beaucoup de religieuses dans le monastère de l'Incarnation. Il y avait 180 religieuses. Et dans ce monastère, beaucoup n'avaient pas de dot, d'argent de papa-maman. Et vivaient dans des dortoirs entassés et mouraient de faim. C'était très inégalitaire comme situation. Le chemin de la réforme dans le monastère de Saint-Joseph, la vie qu'elle va mettre dans le monastère de Saint-Joseph, va avoir à la base l'égalité, le travail, etc. C'est une petite révolution sociale qu'elle opère dans le Carmel, c'est clair. Donc, elle avait une vie assez confortable, et vous savez qu'après cette vision qu'elle a eue de l'enfer, de sa place en enfer, donc elle est née ce projet de la réforme, de faire un monastère de déchaussée, et donc d'embrasser la pauvreté radicale, on l'a évoqué hier. Donc, il y a chez Thérèse une option pour la pauvreté. Mais c'est une option tardive. Mais radicale. Tardive, mais radicale. C'est une option mûre. Mûre, c'est clair. Et le comble, c'est que cette option a germé dans son cœur, donc après la vision de l'enfer, la conversation avec ses amis à l'incarnation, mais aussi pendant que la fondation de Saint-Joseph se tramait, et qu'elle en était écartée parce qu'elle a dû obéir à son provincial qui ignorait, et allait consoler la duchesse de la Cerda à Tolède, dans le palais de la duchesse, où on lui montrait des bijoux et tout ça et tout ça. Eh bien, c'est là que va s'affermir dans son esprit le désir d'une fondation totalement pauvre, radicalement pauvre. C'est les paradoxes du Seigneur, de la Providence. Elle va recevoir la visite d'une béate, qui avait obtenu un brève de Rome pour fonder un monastère de carmélite dans la pauvreté selon la règle primitive. Et Thérèse tombe des nues, elle ignorait que c'était dans la règle primitive qu'on ne devait rien posséder. Donc elle ne savait pas, elle n'avait pas lu, enfin bon, elle ne savait pas. Donc elle le découvre par cette femme qui arrive en guenille, en toute pauvre, etc. Elle découvre que la pauvreté était dans la règle primitive du Carmel et que donc il faut opter pour cela. Elle reçoit des tonnes de théologie des dominicains, du père Ibanez, qui était très simple, et qui lui dit que ce n'est pas raisonnable, etc. Et quand elle prie, elle tombe sur le Christ pauvre, sur la croix, alors ça s'imprime en elle, elle ne peut pas hésiter. Avec ça. Il faudra tout le poids de Saint-Pierre d'Alcantara, avec sa fameuse lettre sur la pauvreté, pour qu'elle opte, qu'elle se décide. Donc il y a vraiment une option ferme chez elle, mais progressive, ferme et mûre. C'est vraiment une option que cette pauvreté. Donc dans le chapitre 2, elle montre l'amabilité de la pauvreté. Il ne s'agit pas de perdre son temps à demander à Dieu des biens et de l'argent pour le monastère et pour les bienfaiteurs et pour ceux qui se confient à notre prière. Vous vous rappelez, le monde est en feu, on a lu ça. Et pour elle-même, les carmélites au monastère de Saint-Joseph. Alors, la pauvreté radicale, donc pas de revenus, pas de dot pour les sœurs, pas de revenus fixes pour le monastère, pas de rente, on disait rentas. Donc, elles vivent d'aumône, et c'est complété par leur travail. Pourquoi ? Parce que le pauvre véritable fait totalement confiance au Seigneur. C'est chapitre 2, paragraphe 1, 2, 3, je résume. Les yeux sur votre époux, il vous nourrira et fera que ceux qui vous aiment le moins vous apportent leur soutien. Ça, c'est l'expérience de Thérèse. Ceux qui vous aiment le moins vous apporteront leur soutien. Le Seigneur est le maître des revenus et des biens. Nous avons répondu à son appel en venant ici. Il ne peut nous faire défaut. Et s'il venait à nous manquer, ce serait pour un plus grand bien. Si vous mourrez de faim, heureuses les sœurs de Saint-Joseph. Et d'ailleurs, je trouve plus pénible d'avoir trop que pas assez. Faire pauvre sans l'être en esprit, ce serait tromper le monde. Les yeux sur votre époux. Évidemment, c'est parce qu'elles ont épousé le Christ, pauvre, et qu'elles lui font totalement confiance. Ensuite, elle dit, dans ce chapitre 2 encore, paragraphe 5 et 6, et vous voyez, ça, c'est tout à fait en lien avec le détachement dont elle parle au chapitre 8 jusqu'à 11. La pauvreté matérielle apporte la liberté d'esprit. Le Seigneur m'a fait comprendre les biens qu'il y a dans la sainte pauvreté. C'est une domination de toutes choses, de tous les biens du monde dont on perd le souci, une grande liberté. Que m'importe ? Alors, une grande liberté par rapport à quoi ? Par rapport à toute la pression sociale. Que m'importent les rois, les seigneurs, si je ne désire rien de leur argent et si je ne cherche pas à les flatter ? Que m'importent leurs honneurs ? La pauvreté assumée pour Dieu seul n'a besoin de plaire à personne. Elle apporte avec soi une grande dignité et quand on a besoin de personne, on a beaucoup d'amis. Bien vu, hein ? Bien vu. Elle sait tout le poids de ces questions-là, tout le poids social, elle a connu ça, c'est clair, de son milieu, tout ça. Voilà. Et par ailleurs, on sait par les études qui ont été faites que dans son esprit, elle fondait, ce sera après, dans la suite, elle va fonder dans les lieux d'essor du capitalisme, de la bourgeoisie, les lieux où il y avait des gens qui avaient de l'argent, parce qu'elle jugeait qu'en justice, les riches devaient donner des aumônes au monastère, puisque les sœurs travaillaient pour l'Église et pour le royaume de Dieu en priant. La prière est un travail, et donc, il est juste que nous recevions des aumônes des gens qui ont de l'argent. C'est la logique dont elle vivra dans les fondations. Et le travail dans les fondations n'est là que pour compléter, pour éviter l'oisiveté des sœurs, la paresse, le fait de ne rien faire, l'oisiveté, et pour compléter les revenus qui sont ceux des aumônes. Vous voyez ça ? C'est assez intéressant. Bon. Et d'autre part, je peux finir, puis après je vous laisse la parole, d'accord ? Dernier point sur la pauvreté, au chapitre 2 encore, paragraphe 8, 9 et 10. La pauvreté est un rempart de solitude et de discrétion. Et elles sont des ermites et des solitaires. Ce sont de grands murs que ceux de la pauvreté. C'est une force plus grande que les édifices somptueux. Ce serait très mal qu'avec le bien des pauvres, on fasse de grandes maisons. Que Dieu ne permette pas, mais que notre maison soit pauvre en tout et petite. Ressemblant en quelque chose à notre roi, qui n'a pas eu de maison, sinon l'étable de Bethléem où il est né, et la croix où il est mort. Toujours Jésus qui est l'exemplaire des vertus. C'était des maisons où il n'y avait guère d'agrément, Bethléem et la croix. Mais pour 13 pauvres... Oui, c'est ça. Ceux qui font de grandes maisons doivent avoir leur raison et de saints motifs. Elles ne se mêlent pas de juger. Si à cause de l'étroit... Mais pour 13 pauvrettes, un bout d'espace suffit. Si à cause de l'étroite clôture, il faut un jardin, cela aide à la prière et à la dévotion, avec des ermitages pour se tenir à l'écart et prier, très bien. Mais pas des bâtiments trop grands qui attirent l'attention. Que Dieu nous en préserve. Alors, la note du mot. Rappelez-vous que tout doit s'écrouler le jour du jugement. Qui sait si ce ne sera pas bientôt ? Ce ne serait pas bien que la maison de 13 pauvres sœurs fasse du bruit en s'écroulant. Et voilà le dernier aspect. Les véritables pauvres ne doivent pas faire de bruit, sinon on ne les prendra pas en pitié. C'est intéressant, ça, c'est bien vu. Hein. Quand les carmélites espagnols sont arrivés en France pour le lancement du Carmel thérésien à la demande de Bérulle, hein, eh bien, on avait prévu pour elle un monastère de 50 places, une véritable abbaye, à Paris. Et alors, ça a été l'horreur pour Anne de Jésus, Anne de Saint-Barthélemy. Elles se sont trouvées complètement dépourvues devant cette situation à laquelle elles ne pensaient absolument pas. Car toutes les fondations thérésiennes en Espagne, c'était de briques et de broc. C'était une maison achetée là, une autre à côté, ou louée, des étudiants qu'on a vidés, enfin, etc. Donc, une espèce d'abbaye monumentale de 50 places, elles n'étaient absolument pas préparées à ça. Voilà. Alors, votre question, père.
C'est par rapport à ce que tu avais dit tout à l'heure. On a besoin de personnes.
Oui.
Quand on a besoin de personnes, on a beaucoup d'amis. Mm-hmm. Et c'est là que. C'est dit aussi des riches, non ? Les riches qui n'ont besoin de personne, ils ont tout. Et on dit qu'ils n'ont pas de vrais amis.
Ah, alors la leçon de Sainte-Thérèse, c'est clair, c'est préserver pour le monastère et pour les sœurs l'indépendance, la liberté. On a décidé d'être pauvres, et on le vit pauvrement, en esprit et en vérité, et matériellement. Pour ne pas créer de dépendance. Vous voyez ça ? Hein, c'est dans ce sens-là. Quand on crée des dépendances de revenus fixes, par exemple pour les monastères, alors on dépend de telle personne, tel riche négociant, marchand, tel seigneur ou duchesse, enfin, etc. Vous voyez, hein, qui verse des subsides chaque année ou chaque fois, que sais-je, plutôt chaque année. Hein. Et donc on est très dépendant, on doit faire ses quatre volontés. Et de fait, ça va se passer une fois lors d'une fondation, j'anticipe un petit peu, mais une fondation catastrophique qui a été demandée par la princesse d'Éboli, qui était la femme du secrétaire du roi, Philippe II. Et donc, elle s'est entichée du Carmel, elle a voulu faire une fondation tout près de son château à Pastrana. Elle a imposé cette fondation à Sainte-Thérèse, elle a envoyé un carrosse pour aller chercher Sainte-Thérèse à Tolède et pour lui dire... vous devez venir, etc. Elle avait repoussé, puis elle s'est exécutée. Et dans la fondation, alors, évidemment, les carmélites dépendaient en tout du château, de la duchesse et tout ça. Et Sainte-Thérèse a eu la prudence de faire noter toutes les dépenses et tous les dons de la princesse. Et ça a été extrêmement difficile parce que quand elle est devenue veuve, cette princesse qui était complètement pas très équilibrée, farfelu, enfin bon, ce qu'on veut. C'est elle qui dénoncera le livre de la vie à l'Inquisition, parce qu'elle avait obtenu de Sainte-Thérèse. Alors, eh bien, elle décidera d'entrer dans le monastère, se faire carmélite. Alors, elle n'était pas du tout décidée à obéir à la prieure, mais tout ça. Donc, c'était le soum dans le monastère. Et quand les carmélites n'en ont plus pu, alors Sainte-Thérèse a dit à la prieure, Isabelle de Santo Domingo, je crois, alors vous revenez, vous quittez de nuit sans prévenir personne, et vous arrivez, et c'est la fondation de Ségovie. Donc elles ont quitté cette fondation de nuit, et puis elles sont arrivées à Ségovie. Voilà, la grande fureur de la princesse, bon, voilà. Donc c'est pour dire qu'après, elle se rendra compte à ses dépens que cette dépendance des grands, qu'ils soient riches ou qu'ils soient grands, etc., eh ben, ça a apporté beaucoup de dommages, quoi, vous voyez. Et elles n'avaient pas la liberté pour vivre leur vie, quoi. Elles étaient complètement dépendantes, et l'autre qui aurait dû obéir, il fallait que tout le monde lui obéisse, donc c'était C'était le souk complet. Donc voilà, je crois qu'il y a quelque chose de très intéressant là. Là, on est pauvre, on a décidé d'être pauvre. Si on n'a pas d'argent, ben, si aujourd'hui on n'a pas à manger, ben, ça ne fait rien. On ne va pas aller quémander. Ce qui arrivera, arrivera. Voilà, c'est comme ça. Ça va ? C'est ça. C'est ça la pauvreté. Vous voyez, la pauvreté est présentée comme une valeur positive et aimable. Je crois que ça, c'est un aspect assez intéressant dans les monastères de Sainte-Thérèse. Et c'est bien lancé dans cette charte de vie qu'est le chemin de la perfection. Bon, alors, vous voyez, c'était un aspect donc assez important dans ce chapitre 2. Vous voyez aussi que les chapitres 8 à 11 et jusqu'à 15 vont développer davantage, j'allais dire, l'aspect pauvreté intérieure, spirituelle, disposition du cœur, détachement de soi. Et il y a un point sur lequel elle va beaucoup insister, c'est les chapitres 12 et 15. C'est la question du souci d'être estimé, honoré, considéré, le souci qu'on a de son propre moi, ego, l'importance qu'on se donne, vous voyez ça, le souci de soi-même, et puis aussi le sentiment de notre supériorité. Alors, dans les chapitres 12 et 15, on a quelque chose de très psychologue, c'est très psychologique si vous voulez, excellent, très bien vu, très pénétrant, très clairvoyant. Alors, dans une communauté, s'intéresse démasque ce souci. Alors souvent, on se juge plus ancien que les autres, on pense qu'on a rendu des services, on se juge au-dessus de certaines tâches qui sont trop matérielles ou trop basses, on trouve que les autres bénéficient de plus d'égards, etc. Donc c'est tout un aspect de préséance, comme elle dit. Alors vous verrez ce texte, je ne vais pas y insister parce que je voudrais qu'on avance, c'est 12.6. 12.6 ou la page 641. Vous verrez ça. Alors, il y a un point sur lequel elle va insister, qui n'est pas si facile que ça à voir dans notre psychologie moderne. C'est le détachement et l'humilité, ça va ensemble, qu'il y a à accepter les injures, les offenses, les humiliations, les contradictions, les persécutions. Alors, c'est pas forcément très agréable, tout ça, mais quel sens donne-t-elle à tout ça ? Eh bien, nous sommes les épouses du Christ et notre époux a été humilié dans sa passion et sur la croix. Le titre du chapitre 15 est très éloquent du grand bien qu'il y a à ne pas se disculper, même si l'on se voit condamné sans faute. Alors, c'est assez amusant parce qu'elle commence en disant du grand bien que, patati patata, c'est le titre. Et puis elle dit, je vais vous parler d'une chose que je ne vis pas moi-même. Que je ne suis pas arrivé, parce que moi, je ne perds jamais l'occasion de me disculper si on m'accuse sans raison. Bon, c'est assez sympathique parce que ça se met à notre portée. Bon. Donc, se disculper, vous voyez ce que ça veut dire ? Oui, ça va ? Quand on nous accuse et qu'on se justifie, ça peut aller ? Se disculper. C'est dire qu'on n'a pas de faute, c'est se disculper, culpa. Ça va ? Bon, c'est ça pour les non-francophones. Donc elle est très confuse d'une vertu, de parler d'une vertu qu'elle ne pratique pas elle-même, car elle trouve toujours une bonne raison pour estimer plus vertueux de se disculper. Bon. Et elle dit, se voir condamné sans faute et se taire, c'est la marque d'une grande humilité, Et c'est une grande imitation du Seigneur qui a enlevé toutes nos fautes. L'humble véritable doit désirer en vérité être tenu pour peu de choses, accusé et condamné sans faute, même pour des choses graves. Car s'il veut imiter le Seigneur, comment pourrait-il le faire mieux qu'en cela ? 15.2. Page 651. Alors, avec notre psychologie moderne, nous aurions tendance à dire que c'est plutôt du masochisme, que cet accueil de l'humiliation. Mais, pour elle, profondément, c'est l'aspiration à imiter le Seigneur le mieux possible, spécialement dans les souffrances, les humiliations de sa passion, qui attestent la vérité de son amour pour nous. Aussi, elle prie, et vous avez cette très belle prière, je lis parce que je coupe un peu, 15.5, page 652, 15.5. Ô mon Seigneur, quand je pense à toutes les façons dont vous avez souffert, vous qui ne l'aviez nullement mérité, je ne sais que penser de moi, ni où j'avais l'esprit quand je désirais ne pas souffrir, ni où j'en suis quand je me disculpe de quelque chose. Je coupe un peu. Est-il possible que je veuille que l'on pense du bien de quelqu'un d'aussi mauvais que moi, alors qu'on a dit tant de mal de vous, et je trouve ça assez magnifique, qui êtes le bien au-dessus de tous les biens. Plus loin, je coupe. Éclairez-moi, faites que je désire vraiment que tout le monde me haïsse de vous avoir abandonné tant de fois, alors que vous m'aimez si fidèlement. 15.5, 652, 653. Alors voilà, un superbe texte, une superbe prière. Hein. Donc tout ça, c'est regarder dans le Christ hein, et avec lui. Mais voilà un point sur lequel elle se montre très psychologue et très juste. Et puis elle revient toujours à une lumière de vérité, c'est toujours fondamental pour elle. Désirer. Enfin, non seulement se disculper, mais désirer l'approbation des autres, parce que c'est toujours cette question du jugement des autres sur nous. C'est ça qu'elle vise, là. Alors, non seulement on ne veut pas être accusé, mais on voudrait bien être approuvé. Hein. Désirer l'approbation d'autrui, éviter son jugement, sa désapprobation, repose en réalité sur une erreur. Laquelle ? Alors, c'est assez bien vu. C'est 15.6. On pourrait lire ça. Vous l'avez, Père ?
Alors, t'avais dit pas le début.
Bah non, c'est ça. Donc c'est... Qu'est-ce que cela, mon Dieu ? 15.6. Quel avantage ? Vous voulez le lire, Cécile ? Vous l'avez ? Lisez-le. Essayons de le lire. Qu'est-ce que cela, mon Dieu ?
Crois donc en mon Dieu. Quel avantage pensons-nous retirer de plaire aux créatures ? Et que nous importe d'être contaminés par elles. Si, selon toi, Seigneur, nous sommes innocentes. Ô mes sœurs, que nous comprenons peu cette vérité. Jamais, cependant, nous n'arriverons à être parfaites. Si nous ne l'approfondissons avec soin, et si nous ne nous appliquons à distinguer continuellement ce qui est de ce qui n'est pas.
Bien. Alors, vous voyez, première chose. Que nous importe d'être accusés par les autres si notre cœur, si Dieu ne nous accuse pas dans notre cœur, d'accord ? Donc c'est l'intériorité, le primat de l'intériorité, premier élément. Deuxième élément, c'est la vérité. Avec Thérèse, on y revient toujours, vous rappelez ? La vérité source de l'amour. Et là, c'est pareil, la vérité source du détachement, des choses et surtout de soi. Nous n'en finissons pas. Si nous n'en finissons pas de comprendre cette vérité, si nous ne l'examinons pas et n'y réfléchissons pas, ce qui est, ce qui n'est pas. Lo que es, qui es lo que es, y qui es lo que no es. En espagnol, c'est assez fantastique. Hein? Qu'est-ce que c'est ce qui est et qu'est-ce que c'est ce qui n'est pas ? Donc il y a ce qui est et ce qui n'est pas. Ce qui a consistance, ce qui n'a pas de consistance. Hein? Vous voyez ? Hein? C'est donc, il y a encore cette part de vérité, de lucidité sur ce qui a consistance, stabilité par soi, c'est-à-dire, sous-entendu, Dieu, le Créateur, et ce qui n'a pas de consistance, ou de consistance que par un autre, la créature. Donc elle nous invite à relativiser le jugement des créatures. le jugement, l'approbation d'autrui. C'est encore cette vérité vivante, hein, sur Dieu, sur l'homme, qui est à la source, au fondement ultime de cette vertu qu'est le détachement de tout le créé assorti de l'humilité. C'est ça, c'est intéressant, ce qui est, ce qui n'est pas. Le reste, on s'en fout. D'accord ? Bien, voilà un aspect intéressant. Alors, Sainte-Thérèse n'en reste pas au niveau de la seule conviction, elle a un génie éducatif, pédagogique, elle envisage la réalisation pratique, il faut demander cette grâce du détachement et de l'humilité véritable, mais il faut aussi cultiver, s'habituer, s'appliquer à cette vertu. 115.2. Au début, ça paraît impossible, surtout pour nous, et puis elle se range au milieu de ces gens qui sont très, très peu mortifiés et hypersensibles à notre moi, hein, et donc tellement soucieux de l'approbation, de la désapprobation des autres. Mais avec l'aide de Dieu, on peut atteindre ce détachement et cette liberté d'esprit. 15.7. Et d'ailleurs, on pourra céder de la pensée qu'à la vérité, on n'est jamais exempt de faute, qu'on n'est jamais accusé tout à fait à tort, car, dit-elle en citant l'Écriture, le livre des Proverbes, 24.16, « Le juste pêche 7 fois par jour. » C'est-à-dire, à jet continu. D'accord ? D'accord ? Bon. Mais ce qu'elle dit, cette vertu du détachement de soi ne demande pas de force physique. On a besoin de l'aide de personne d'autre que de Dieu, et au contraire, elle donne des forces à l'âme. On peut l'exercer graduellement, en commençant par des petites choses, pour triompher dans des grandes. Le résultat en vaut la peine, on atteint la liberté d'esprit, c'est-à-dire cette indifférence habituelle à ce qu'on peut dire ou penser de vous. Voilà le fruit savoureux de cette vertu. Ça va ? Bien. Alors, vous voyez qu'on avance bien. Nous sommes au point D maintenant de notre plan. Ça va ? On a vu le détachement de la liberté d'esprit, l'humilité véritable. Vous voyez que ça se tient, les deux se tiennent, sont imbriqués. On y reviendra. Ce qui est, ce qui n'est pas. On verra le commentaire du pater, on verra après. Mais il y a déjà une piste là, au sujet du pardon des offenses. Est-ce qu'il s'agit de véritables offenses ? Déjà, pour Thérèse, les offenses qu'on reçoit, ce n'est pas de véritables offenses. Bon, le censeur ne sera pas très content de ça, mais enfin, on verra ça. Ce n'est pas de véritables offenses. Nous nous sentons offensés parce que nous sommes hypersensibles, mais en fait, objectivement, voilà ce qu'elle veut faire comprendre. Bon, enfin, voilà. C'est assez intéressant. Alors, disposition ultime au don de la contemplation. Donc, les chapitres 16 et 17. Pourquoi j'ai mis 18 ? Oui, 18 aussi, en effet. 18 aussi. Bien. 16, 17, 18. Ça va ? Donc, vous voyez qu'on avance bien. On ne s'attarde pas à tout, on n'entre pas dans tous les détails non plus, ni dans tous les méandres du fleuve thérésien ou de la forêt vierge thérésienne. Il faut savoir avancer, hein, pour que vous ayez une vision générale de l'œuvre. Hein. Alors, nous allons toucher un point intéressant. Il s'agit, pour Thérèse, de rassembler ces trois choses qu'elle a évoquées au chapitre 4, sans lesquelles on ne peut être contemplatif et attirer le don de Dieu, sans lesquelles notre prière ne peut être efficace pour l'Église et dans l'Église. L'amour mutuel, le détachement et l'humilité. Elle rassemble cela dans un superbe texte, une comparaison. Alors, ce texte, en réalité, était dans le chemin de perfection de l'Escorial, le premier autographe. Le censeur n'a rien dit à ce sujet. C'est Thérèse qui elle-même et d'elle-même a décidé d'arracher les pages. Vous voyez, tout ça c'est compliqué pour la pagination du chemin de la perfection de Valladolid et pour les chapitres. Pourquoi ? Suspense, n'est-ce pas ? Vous vous demandez bien.
Oui.
Ah. Alors, Thérèse a employé une comparaison pour ressaisir son enseignement sur ces trois vertus qui disposent ou qui attirent le don de la contemplation et donc de la prière efficace pour l'Église par la comparaison d'un jeu, le jeu d'échecs. Donc elle a arraché les folios, alors c'était les folios 59 à 63 qui constituaient le chapitre 24 de l'autographe de l'Escorial. Il n'y avait aucune observation du censeur, mais sans doute, ce sont des hypothèses, hein, Sainte Thérèse a considéré peu convenable de parler de jeu à des religieuses. Car à l'époque, les moralistes estimaient que le jeu d'échecs et d'autres jeux étaient pécamineux pour les religieux. Pourquoi ? Ils fatiguaient leur esprit et les empêchaient de réciter l'office divin avec l'attention requise. Je cite un texte de l'époque. Et Sainte Thérèse d'ailleurs avoue à ses filles : « Vous allez me blâmer parce que je parle de jeu alors qu'on ne joue pas dans cette maison et qu'il est défendu d'y jouer. » Voyez par là quelle mère Dieu vous a donnée, elle est même au courant d'une vanité comme celle-là. Néanmoins, on dit que le jeu est quelquefois licite. Elle est au courant de cette vanité, comme elle dit, elle a appris à jouer aux échecs, vraisemblablement avec son père. Son père, Don Alonso, avait été militaire dans les guerres contre la France, au moment où Saint Ignace a été blessé au siège de Pampelune, vous voyez tout ça. Donc le père de Sainte Thérèse était dans, avait participé à ces guerres contre les Français au sujet de la Navarre, et c'était les soldats qui jouaient aux échecs et qui apportaient et apprenaient ce jeu dans leur famille. Donc c'est vraisemblablement comme cela qu'elle a appris ce jeu. Alors elle utilise cette comparaison dans le premier jet du chemin de la perfection, et après, bien qu'il n'y ait aucune remarque du censeur, pour le censeur ça ne va pas gêner, eh bien elle va le supprimer. Mais l'éditeur Fray Luis de León a trouvé que c'était trop dommage, et donc il a récupéré les feuilles arrachées dans le chemin de l'Escorial, et il les a insérées. Arrachés dans... dans le chemin, oui, c'est ça. Et les a insérés dans... et donc ça a fait partie... le chemin de l'Escoria, c'est tout à fait normal, mais tous les éditeurs ensuite, c'est pour ça que dans vos versions, on a toujours cela au chapitre 16, hein, et c'est pas juste, hein, au chapitre 16, ces folios qui correspondent au jeu d'échecs que Sainte Thérèse avait arraché. Les éditeurs les ont toujours insérés à partir de cette édition Princeps de Fray Luis de León. Ça va ? Donc vous ne vous posez pas la question parce que vous l'avez. Mais si vous regardez là, vous ne l'aurez pas. Dans l'autographe de Valladolid, il n'y est pas. Ça va ? Donc il y a un problème de pagination. Alors on va lire ça. On ne va peut-être pas tout lire, mais c'est quand même intéressant. Je vous le lis parce que je coupe un peu. Donc c'est 16... 1, page 655 dans le seuil, ou 24.1.2 dans le chemin de perfection de l'Escorial, pour les gens qui ont ce privilège de l'avoir. Ne vous imaginez pas que tout cela soit beaucoup, tout ce détachement, tout cet amour, toute cette humilité. Car, comme on dit, je n'ai fait que disposer les pions pour le jeu. Je coupe. Sachez que celui qui ne sait pas disposer les pièces du jeu d'échecs ne saura pas jouer. Et s'il ne sait pas faire échec, il ne saura pas faire mat. Je coupe. Si nous nous exerçons beaucoup à cette manière de jouer, avec quelle promptitude ferons-nous mat au roi divin ? Voilà un jeu d'échecs spirituel. Il s'agit de faire mat au roi divin. Il ne pourra plus s'échapper de nos mains, ni ne le voudra. Faire prisonnier le roi, vous voyez l'enjeu. dans ce jeu, c'est la dame qui donne le plus de mal au roi. Moi, je ne suis pas un joueur d'échecs, donc j'ai toujours eu du mal à comprendre l'importance de cette dame. Mais on m'a expliqué, j'ai fait une partie une fois pour comprendre. Pour comprendre, s'intéresse, on va dire. Après, j'ai trouvé mon goût. Donc, c'est vraiment la dame, c'est fantastique. C'est un jeu féministe, en fait. Comme... Oui, voilà, c'est un jeu féministe, en fait. C'est très clair, c'est très, très clair. Alors, c'est la dame qui donne le plus de mal au roi, et cela d'autant plus que les autres pièces la soutiennent. D'accord ? Et il n'est pas de dame. Il fallait qu'elle sache bien jouer pour exprimer tout ça dans un texte, quand même. Hein. Bon, elle a dû y jouer, hein, et elle a dû y passer du temps, comme pour les romans de chevalerie. Bon, c'était... Alors, et il n'est pas de dame qui puisse l'obliger à se rendre comme l'humilité. C'est elle qui l'attira du ciel dans le sein de la Vierge, et c'est avec elle que nous pourrons l'attirer en nos âmes avec un seul de nos cheveux. Ici, c'est une citation du Cantique des Cantiques, hein. Croyez-le, plus vous aurez d'humilité, plus vous le posséderez, et moins vous en aurez, moins vous le posséderez. Je ne puis concevoir en effet qu'il y ait ou puisse y avoir d'humilité sans amour, ni d'amour sans humilité, de même qu'il est impossible que ces deux vertus puissent exister sans grand détachement de tout le créé. Ça va ? Donc, Sainte Thérèse, qu'on dit espagnole du XVIe siècle, incapable d'ordre et de raison, vous voyez que là, elle renoue tout, elle resitue tout, et que tout ce qu'elle a écrit pendant 12 ou 13 chapitres, hein, obéit à une logique, à une cohérence parfaite. Hein. Elle ressaisit tout. Les trois vertus, elle dit d'abord que ce sont des vertus, donc c'est la première fois qu'elle nous le dit, avant c'était trois choses. Bon, hein. Elle parle de vertus, les trois ensemble, donc elle les articule très bien. Elle montre donc l'importance de l'humilité comme force d'attraction. L'humilité est une force d'attraction du don de Dieu. Donc l'humilité, si vous voulez, c'est pas quelque chose de passif, de servile, de pusillanime. C'est une force d'attraction. C'est la dame. Et donc ça a quelque chose de belliqueux même. Hein? Donc ne voyons pas dans l'humilité quelque chose de passif, hein, de gnagnasse, de gnangnan. Hein? Voilà, ça, c'est des mots français un petit peu familiers pour dire quelque chose d'un peu triste, d'un peu petit, tout ça. C'est pas ça, l'humilité. C'est une force de conquête et d'attraction dans cette comparaison. C'est une puissance royale et mariale. La dame, la reine, est victorieuse du roi. Elle le fait prisonnier. L'humilité est une disposition vertueuse qui attire irrésistiblement le don divin de la contemplation, qui n'a rien à voir avec la faiblesse, la passivité, la pusillanimité. Ça va ? Donc ça, c'est intéressant. Et elle a employé ce mot-clé de la théologie tridentine, de la grâce et de la liberté, le mot de disposition. On se dispose. Et on attire le don de Dieu. D'ailleurs, cette expression « attirer », Sainte Thérèse l'emploie, elle l'a sans doute empruntée à une lecture qu'elle faisait constamment d'un livre qui était resté en libre accès, qui s'appelle « La Vita Christi », « La vie du Christ », de Ludolphe le Chartreux, un dominicain qui s'était fait chartreux, ou le contraire, un chartreux qui s'était fait dominicain, je ne me rappelle plus. En tout cas, on l'appelle Ludolphe le Chartreux du 14e siècle, je crois, et qui est un texte formidable pour elle, car il s'agit d'une compilation des évangiles, des écrits du Nouveau Testament, particulièrement des lettres de Saint Paul, et traduit. C'est un texte qui était traduit en espagnol, déjà depuis, quand elle écrit là, depuis une trentaine d'années, hein, par Ambrosio Montesinos. Et ce livre avait passé la censure de l'index de Valdès en 1559. Il était en quatre volumes. Donc c'était une compilation des évangiles, de manière qui se voulait un peu chronologique, des lettres de saint Paul, assez complète d'ailleurs les lettres, et avec l'insertion de commentaires des pères de l'Église. Donc c'était très riche, qui était aussi traduit en espagnol. Et pour comble de bonheur, le texte même de l'écriture était dans les livres de l'époque, parce qu'on faisait des beaux livres à l'époque, hein, c'était pas ce papier affreux qu'on a maintenant, hein, c'était des beaux livres, et toutes les citations de l'écriture étaient à l'encre rouge, couleur rouge, se détachant sur l'ensemble du texte noir. Donc on visualisait très bien les textes de l'écriture. Donc il lui restait ça comme accès à l'écriture, dans sa langue. Pas complet, évidemment c'était pas complet, pas intégral, c'est clair. Mais il lui restait ça. Et alors dans ce livre, il y a, dans cette vie du Christ, il y a le commentaire, enfin l'évangile de l'Annonciation, hein, qui est présenté avec des commentaires des pères. Et il y a ce petit texte tout à fait intéressant que j'avais relevé. D'ailleurs, je peux vous montrer, j'ai fait une photocopie, alors pour le coup c'est une photocopie, mais de la vie du Christ qu'elle avait entre les mains, que j'ai découvert chez les pères Carme à Burgos. Et donc en espagnol ancien, hein, mais j'ai relevé le passage que je vais vous citer, au sujet de l'Annonciation de la Vierge Marie. Alors ce texte, tout à fait frappant, « L'humilité de la Vierge fut si agréable au Fils de Dieu que par elle, comme le fer est attiré par l'aimant, lui, le Fils de Dieu, il fut attiré du ciel dans le sein de Marie pour s'y incarner. » Donc il y a le verbe attirer, hein, et puis cette attraction du fer attiré par l'aimant. Hein. C'est difficile à expliquer dans les autres langues, hein, mais un aimant qui attire le fer, les épingles, etc. Vous voyez ce que c'est ? Bon, on va traduire. Hein. L'humilité de la Vierge fut si agréable au Fils de Dieu que par elle, par l'humilité, comme le fer est attiré par l'aimant, donc c'est tout centré sur le mot attirer, il fut attiré du ciel dans le sein de Marie pour s'y incarner. Hein. Et c'est le verbe « traer », celui qu'emploie Sainte Thérèse. Voilà. Donc, certainement, il y a une réminiscence chez elle de ce texte. Hein? Bien. Alors, on va terminer, là. Il nous reste quelques minutes. Donc, l'humilité, force d'attraction du don divin. Ce don divin de la contemplation, de l'union contemplative avec Dieu, de cette prière qui devient efficace au service de l'Église. Qu'est-ce que la contemplation dans l'esprit de la Sainte à l'étape où on est du chemin de la perfection? C'est le chapitre 16, 17, 18. C'est la venue du roi de gloire en nous, notre union avec lui, une union si étroite, aussi étroite que celle des enfants bien-aimés avec leur père. Chapitre 16, paragraphe 6, page 659. Ils sont dans ses bras et ne sauraient se séparer de lui. Il les fait asseoir à sa table et leur donne de sa propre nourriture. Toujours chapitre 16, vous voyez, c'est que des images. Donc, ce don de la contemplation est un don gratuit, divin gratuit, mais une disposition est nécessaire et requise de l'homme. Il faut disposer le jeu, hein, c'est ce qu'on vient de voir. Entablar el juego. Et Sainte Thérèse nous fait comprendre que cette disposition ne serait pas nécessaire s'il s'agissait de la prière discursive ou de la méditation. Mais pour la contemplation, c'est autre chose, dit-elle. Il faut se disposer. Alors, elle a une petite réflexion au chapitre 17 qui est intéressante. Oui, mais il est arrivé que le Seigneur fasse le don de la contemplation à des gens qui étaient en très mauvais état, qui sous-entend probablement dans son esprit en péché, en état de péché, peut-être mortel, et sans vertu. C'est le chapitre... oui, ah ben non, c'est 16, je me trompe, c'est pas 17, c'est chapitre 16. Hein? Alors, elle se pose cette question, comment c'est possible, ça? Alors, il y a des études qui ont été faites là-dessus pour essayer de comprendre cette histoire, cette question de Sainte Thérèse. Elle fait comprendre que, habituellement, le Seigneur ne viendra pas en nous si nous ne nous efforçons pas d'acquérir de grandes vertus. 102. Pardon, 102, c'est ma note. 16.2. Page 658. 16.2. Le Seigneur ne viendra pas en nous si nous ne nous efforçons pas d'acquérir de grandes vertus. Car ce roi ne se donne qu'à ceux qui se donnent complètement à lui. Alors elle disait ça dans l'Escorial. Chapitre 25. Mais si nous faisons ce qui est en notre pouvoir, il ne manquera pas de nous accorder ses dons jusqu'à un degré très élevé. 16.5, page 659. Ça va? Bien. 16.5. N'allons pas prétendre que nous ne sommes pas des saints ni des anges et que ces vertus ne sont pas à notre portée. Nous ne sommes pas encore des saints, mais nous pourrons le devenir, dit-elle. Il faut une sainte audace et une grande présomption. Une sainte audace et présomption qui font grandir l'humilité. 16.8, page 661. Ça va ? Bien. Donc vous voyez, il faut se disposer et se disposer par les vertus. Vous voyez la problématique que nous avons évoquée au début. Prière contemplative, don de la contemplation et vertu. Cohérence. Disposition nécessaire. Elle va dire, on va s'arrêter là, on recommencera avec ça demain. Ce n'est pas à la hauteur du don de Dieu, mais c'est indispensable, c'est nécessaire pour l'attirer. Voilà la logique. C'est la logique catholique de la grâce et de la liberté, du don de Dieu. C'est nécessaire, c'est indispensable. Il faut se disposer par les vertus pour attirer ce don divin de la contemplation. Voilà. On a presque tout fait. Il nous reste un tout petit texte du chapitre 17 qui nous permettra de faire la transition. Comment celui qui est véritablement humble pourra s'imaginer qu'il a droit à être contemplatif ? Encore une question. Tout ça, c'est très affiné. Vous pouvez voir. Je vais vous laisser ce texte hein, de la Vita Christi. Il y a la transcription ensuite et il y a le texte latin de la Vita Christi qui est là. Tout ça, je vous mets ça là, c'est...